J'aimerais partir d'une allégorie comique de la condition méta dans la culture pop contemporaine. Je la tire d'une comédie des années 90 du regretté Harold Hamis, Multiplicity, Ma femme, mes doubles et moi, de 96. Rongé, je vous rappelle l'histoire rapidement pour ceux qui ne connaîtraient pas le film, rongé par le stress de l'entreprise de construction dans laquelle il travaille, Doug Kinney, qui est joué par Michael Keaton, n'a plus le temps de vivre, de se consacrer à sa famille, à son épouse, que joue Andy McDowell. Un chercheur en génétique lui propose une solution, lui fabriquer un double qui pourra le suppléer. La comédie court-circuite donc complètement la catastrophe culturellement attachée par la voix fantastique de Chamisso à Dostoïevski en passant par Poe à la figure du double. Ici, pas de crise de la disparition de l'original au profit d'une copie surpuissante, pas de violence identitaire entre les versions du même. Chez Harold Ramis, les tâches au début de la relation du double et de l'original sont clairement fixées, les places assignées, c'est une sorte de contractualité domestique, une gestion d'agenda, l'exploitation utilitariste d'une ubiquité qui permet à l'original de retrouver le plaisir de vivre, de se consacrer à sa famille et à ses loisirs. Mais de fait, la question est inévitablement politique. La revendication sur l'inégalité des statuts et des conditions ne tarde pas à venir. Débordé, surmené, exploité, le double exige à son tour le confort de la suppléance. Le généticien donnera donc au double un double, puis à ce double de niveau 2, un double de niveau 3 encore. Et c'est là que Nietzsche de fait mon allégorie du méta. Les doubles du double représentent de façon flagrante un jeu en abîme du processus même de duplication. Mais loin de fluidifier les échanges entre les doubles de niveau supérieur, cette ouverture ne reconduit pas tant à un niveau inférieur la fable politique de l'exploitation qu'elle introduit plutôt l'idée d'un processus en train de se gripper, d'une opération qui était grosse de possibilités mais qui se défait dans la répétition de son hypothèse idéale de départ. De l'original à la copie, tout allait bien et rien ne laissait entrevoir la moindre perte qualitative dans le doubling quantitatif. Finalement, l'original et son double sont platement spéculaires et leur relation strictement économique. La complexité symbolique arrive en fait avec la version 2 et 3. Les niveaux inférieurs, c'est-à-dire proprement méta, ceux qui mettent en abîme la relation de doubling entre l'entrepreneur et son premier butler génétiquement dupliqué. Dans Multiplicity, le tiers est la version débile du double. Le dernier double, le niveau le plus éloigné de l'original, a l'esprit particulièrement lent, commet des gaffes à répétition, ne comprend rien à rien, et les actions à accomplir se grippent par l'accumulation de bévues et de quiproquos. Le tiers conduit l'équilibre précédent vers un point de rupture. La fin du film voit le quatuor se séparer, l'original retourne vers son unicité et désormais se réforme dans ses habitudes et profite de sa vie familiale, alors que le double, lui, réussit enthousiaste et performant dans une vie de chef d'entreprise, il occupe pleinement la vie professionnelle que l'original a décidé de délaisser. Quant au numéro 3 et 4, ils partent tous deux à la fin du film pour la Californie, ouvrir un restaurant à succès sur les plages. L'allégorie de Multiplicity expose une des questions majeures quant aux productions culturelles, formulaires, stéréotypiques et sérielles. Cela du roman populaire du 19e siècle jusqu'à la culture pop intermédiaire contemporaine. À travers la duplication dégradée, l'allégorie laisse voir, en l'essentialisant comme cœur de sa dynamique, la corrélation problématique de la répétition et de l'évaluation. De ce fait, ce que souhaite Doug Kinney, le sujet original de Multiplicity, ce n'est pas tant une nouvelle vie que le retour au statu quo ante, l'époque heureuse d'avant le burn-out. Il s'agit donc moins dans la duplication d'une innovation radicale que d'une différence minimale qui permette le retour à une situation idéale. En ce sens, ce que montre parfaitement Multiplicity, c'est que la duplication, comme figure de la répétition, n'avorte que si elle perd en qualité. Son principe est éminemment désirable, et sans la logique de la comédie qui vient carnavaliser le processus en un tiers débile, cela pourrait tout à fait valoir comme une forme de vie acceptable. En ce sens, le film d'Harold Ramis fait clairement résonner en plein cœur des plaisirs méta d'un âge postmoderne finissant, on est en 96, un troublant constat quant au discours spéculaire du double et au-delà à propos des scènes réflexives qu'animait ce double. Multiplicity raconte ouvertement la domestication du principe réflexif attaché au doubling, c'est-à-dire la secondarité de son imaginaire face à la logique économique de son rendement. La comédie néolibérale entérine la disparition de la figure réflexive et critique née avec le romantisme, qui identifiait la manifestation du double à une violence ou à une incongruité profondément déstabilisatrice pour le sujet comme pour sa communauté. L'histoire de cette perte, les questions qu'elle pose dans le paysage de la pop culture méta, qui est la nôtre, et les possibilités d'une éventuelle recharge critique des formes méta constituent aujourd'hui l'objet de mon propos. Même si le recyclage, reprise ou réécriture désigne les formes du retour sous le jour positif d'une poétique de la transformation, il est quand même difficile de ne pas constater également, et peut-être partir de là, dans les mêmes structures, dans les mêmes figures, les mêmes thèmes ou les motifs qui reviennent au gré des fictions et des médias, ce qui peut aussi apparaître comme rabâchage, ressassement et pure répétition. Or, si la répétition fait essentiellement question et s'avère gênante dans une industrie culturelle qui, dans le même temps, entend promouvoir la nouveauté comme son moteur même, c'est parce que, comme le montre la fable de Multiplicity, la répétition est essentiellement pensée comme déperdition des propriétés qui constituent l'identité et qu'exprime l'état antérieur d'un original. Assez rapidement, le coefficient de variation qui pourrait par exemple être attaché à la différence pragmatique de la situation de réception ne suffit plus à la distinction des expériences. J'ai beau voir le même film, le même type de récit avec des amis différents et selon des modalités variées, la répétition sémantique et structurelle du produit me pèse. Elle finit par ne plus signifier qu'elle-même, à moins au contraire qu'elle ne m'amène à reconnaître que le plaisir du produit pop est bien celui du même, revenant sans cesse en tant que même. Mais, semble dire la fable d'une multiplicité, il y a un degré encore plus inquiétant, c'est le moment où la répétition en vient à ne même plus assurer ce plaisir du même, le retour régressif ou fétichiste de l'identique. La répétition marque la dégradation et l'appauvrissement de l'expérience, parce qu'à mesure que revient le même, s'insinue le spectre des premières fois et la nostalgie qui y aurait attachée. J'aimerais, pour opérer le nouage des formes de production culturelle fondées sur la répétition, la reprise, le recyclage, et quelles que soient les nuances de ces termes, on y viendra plus tard, le nouage donc de cette dimension de répétition et de la crise potentielle du renouvellement, faire un détour par le livre important de Simon Reynolds, Retromania, comment la pop recycle son passé pour s'inventer un futur. Vous lirez la citation de Reynolds dans un moment. Détour, pourquoi ? Parce que nos corpus aujourd'hui sont principalement ceux de fiction littéraire, graphique, cinématographique et des séries, quand le discours de Simon Reynolds, porte, lui, sur la musique pop et le rock. Cependant, son hypothèse de départ est à entendre, comme certaines de ses conclusions me semblent être à retenir. Selon Reynolds, ce qui menace à partir des années 2000 la pop, comprise chez lui comme expression juvénile d'une urgence attachée au présent, c'est que le contemporain immédiat et son exigence de nouveauté et de rupture avec la tradition est entré dans le temps de la remémoration, de la célébration muséale et institutionnelle, des musiques et des formes du passé qui ne cessent d'envahir le présent. Cette manie du passé ne touche bien sûr pas que la musique, et l'obsession vintage court des rééditions de jeux vidéo old school aux facsimilés des comics originaux ou aux éditions complètes ou complétées d'inédits, collectors et toute autre manière de faire fructifier l'archive, comme le montrent les coffrets DVD de nos films et séries préférées. Reynolds ouvre ainsi son livre. « Nous vivons dans une époque, écrit-il, où la culture populaire est devenue obsédée par le rétro et avide de commémorations. Reformation de groupes, tournées de retrouvailles et coffrets, festivals anniversaires, interprétations en concert d'albums de légende, la musique d'hier se porte de mieux en mieux d'année en année. Se pourrait-il que le plus grand danger qui menace l'avenir de notre culture musicale provienne de son passé ? Cela peut paraître extrêmement alarmiste, mais le scénario que j'imagine est moins proche d'un cataclysme que d'un assèchement progressif. Voilà comment finit la pop, non pas dans une explosion, mais avec un coffret dont vous n'écoutez jamais le quatrième disque et un ticket hors de prix pour aller écouter les Pixies ou Pavement jouer dans son intégralité l'album que vous écoutiez en première année d'université. Mutatis mutandis, le discours de Reynolds se déplace aisément vers les domaines des fictions pop intermédiales contemporaines qui sont les nôtres. Et l'on peut retrouver, dans le thème de la rétromania et de la nostalgie qui la fonde, la dialectique de la répétition et de la déperdition portée par l'allégorie de Multiplicity. Reynolds monte dans une analyse brillante d'un concert des New York Dolls en 2009 au 315 Bowery, l'ancienne adresse du mythique club new-yorkais CBGB, la résistance du groupe a joué les anciens morceaux qu'un public de Cadra et de Quinca attendent d'eux. C'est que la rétromania, la nostalgie, le fanisme exigent le retour du même et que ce désir-là induit que le plaisir se trouve en grande partie dans la répétition de ce que l'on sait déjà aimer. Bien sûr, ce désir, fait d'un mélange d'attente et d'assurance, peut s'ouvrir à un certain coefficient de différence minimale, mais l'attente du retour domine. Dans le domaine du roman populaire, et à propos du plaisir pris au retour de ces structures sémantiques et syntaxiques formulaires, Daniel Cuenas écrivait dans son introduction à la paralittérature une formule assez frappante pour parler des attentes du lectorat. Il disait que le lectorat attendait du semblable, mais pas de l'identique. Il n'est pas certain que Samuel Reynolds concéderait aux revivals nombreux qui obèrent selon lui la nouveauté, même cette marge de la ressemblance. L'état de la musique pop pour Reynolds condamne la succession des avatars à la débilité, comme le tiers de Multiplicity le représentait. À ceci près que s'ajoute chez Reynolds, dans la catastrophe d'un surplace créatif, l'accumulation des années, le passage du temps, le vieillissement des acteurs pop, auditeurs comme musiciens. On connaît le paradoxe relevé par le critique rock Nick Cohn dans son essai. Alors là, je ne vais pas chanter le plan de Tutti Frutti, mais la série de onomatopées de la chanson de Little Richard, qui donne son titre à la première version du texte de Reynolds, qui date de 69 et qu'il écrit pour dire adieu à la critique rock alors qu'il a 23 ans. Anticipant parfaitement qu'il faut s'arrêter tout de suite, une espèce de congédier de façon rimbaldienne la question de l'écriture rock. Et ce livre résume parfaitement ce que Reynolds disait, la pop est une explosion éphémère, pas une exposition permanente. La pop est une explosion éphémère, pas une exposition permanente. Pour le dire autrement, je vous rappelle que Roger Daltrey continue à près de 75 ans de chanter un texte écrit quand il avait 19 ans en 65, hein, I hope I die before I get old. Talking about my repetition. Hein, on y est vraiment. Donc, paradoxe du temps et de la répétition, pour que le temps soit moins cruel, qu'il s'adoucisse au charme rassurant et suranné du passé, enfance et adolescence, il faut un éternel retour du même pour garantir le plaisir d'une fiction compensatrice, immersive et réparatrice, mais surtout répétant plus ou moins strictement les scénarios et les images d'avant. Moi, comme personnage central d'une culture pop que je peux anthologiser à ma guise, en une suite de playlists non contradictoires, à mes oreilles en tout cas, et qui puisse m'assurer qu'il fut un temps où les œuvres que je ressasse, revois, reprends, me constituaient, et que ce sujet qui se répète dans le grand marché des fictions et des images, eh bien c'est bien moi. C'est très exactement ce que raconte le trajet libidinal de l'objet pop mémoriel dans Bazar de Stephen King, ou encore ce que raconte un roman de la crise de l'adultat en régime pop, comme le High Fidelity de Nick Hornby, ou enfin, d'une manière plus désabusée, plus politique et plus générationnelle, le Vernon Subutex de Virginie Despentes, sorte de splendeur et misère du rocker mâle. Quitte à sacrifier la nouveauté et l'innovation, la répétition me garantit une forme de subjectivation paradoxale. Elle consiste à composer ma bibliothèque singulière de fiction, de musique, d'images à partir de banques et de métadonnées en partage, selon des expansions générationnelles et communautaires pouvant être très larges. Reynolds choisit de découper par décennies. Mais ce sont également des parts de marché si on se place dans un autre mode d'analyse. Les différences de niche et de catégories communautaires peuvent sembler aux spécialistes abyssales. Quant aux néophytes, elles semblent surtout sans substance. J'avais pensé vous projeter la page Wikipédia des différences de sous-genres des groupes de métal pour vous montrer effectivement qu'à l'oreille d'un néophyte, il y a là une distinction, une casuistique sans aucune valeur, quand au contraire, pour les spécialistes, on peut le faire aussi avec les sous-genres de l'épouvante, hein, c'est pareil, on voit au contraire une multiplication, une prolifération des niches communautaires pour définir effectivement des identités faniques. C'est alors au niveau local de niches partagées que le paradigme de la répétition substitue à l'obsession chronologique du temps, à sa verticalité métaphysique écrasante, au contraire une expansion planaire, rhizomatique, qui multiplie à l'envi les combinaisons, les variations, les hybridations, les porosités entre genres. Tout cela se jouant au sein d'espaces qui sont des espaces de distinction, électifs, sélectifs, des sous-cultures de communautés, que j'appellerais volontiers aussi bien micro-geek qu'archi-dandy. c'est-à-dire qui hybride des contenus, des formes et des médias eux-mêmes en autant de nouveaux dispositifs assurant ce discours de la reprise et du recyclage, si l'on prend ce terme-là. Restera alors l'exercice d'une casuistique critique à l'université, mais dans tous les divers lieux de la critique non institutionnelle, ce qui est un pan non négligeable de l'activité fanique, pour déterminer cas par cas ce qui relève de la répétition stricte ou au contraire d'une authentique innovation. Si je retourne à Multiplicity, ce qui relève de la déperdition ou de la recharge. On le voit, la question de la répétition demeure centrale. Elle continue aux yeux des spectateurs et des lecteurs savants à stigmatiser les productions sérielles et le recyclage de la culture pop. La répétition reste la tare constitutive des artefacts pop, et cela depuis leur première expression paralittéraire dans le dernier tiers du XVIIIe siècle avec le roman gothique. Que lui reprochent exactement les critiques de l'époque au roman gothique ? Qu'est-ce que raille exactement Coleridge dans son journal lorsqu'il parle des romans gothiques ? Si ce n'est, très précisément, la répétition de ses procédés, la systématicité de ses situations, de ses formes et de ses tropes. Le geste critique condamne tout autant la sérialité industrielle qui s'annonce que l'écriture industrieuse, qui applique de manière prévisible et tâcheronne des formes et des codes pour réaliser un objet qui vise avant toute autre chose la conformité à un modèle imaginaire. Dans un argument souvent mal compris, Todorov avait parfaitement posé le problème. Dans sa typologie du roman policier, qui date de 71 dans Poétique de la prose, Todorov expliquait qu'il ne saurait y avoir quelque chose comme un chef-d'œuvre du roman policier. D'ordinaire, quand on a à peine fini cette phrase, que déjà les étudiants ont démarré pour monter en première ligne de la défense du roman policier. Il faut juste les arrêter un instant, car l'idée est la suivante. Il ne saurait y avoir un chef-d'œuvre du roman policier, car dans la conception axiologique dominante dans laquelle il écrit, un chef-d'œuvre entend rompre les normes courantes pour les dépasser et instaurer les siennes propres. En ce sens, Madame Bovary est bien un chef-d'œuvre parce que dans le paysage du roman du milieu du XIXe siècle, il est une œuvre de rupture, comme Citizen Kane peut l'être au cinéma dans le paysage qui est le sien. En revanche, dit Todorov, le meilleur roman policier est celui qui remplit le mieux le programme générique dans lequel il s'inscrit et qui utilise au mieux les éléments formels qui sont les siens, qui arrive au meilleur résultat avec les contraintes formelles qui le caractérisent et dans le jeu desquelles il décide d'opérer. Vouloir s'en affranchir, les subvertir, les dépasser, c'est sortir d'un programme structural déterminé alors pour faire autre chose. Autre chose que du roman policier, disait alors Todorov, c'est de la littérature. Mais l'argument de Todorov n'est pas d'évaluation, il n'est pas normatif, tout simplement parce qu'il est formaliste. Il déborde l'identification générique par un projet de subversion que, dans sa pensée de la littérature, il identifie à une intention dans laquelle il reconnaît ce qui, pour lui, est un authentique effet littéraire. La position de Todorov repose sur une définition post-romantique du chef-d'œuvre qu'il attache à l'exception et à la rupture, ainsi que sur une description structurale qui caractérise la forme générique par tout ce qui en elle se répète sans pouvoir être abandonné au risque d'en changer la nature. Comment par exemple penser un récit policier sans enquête ? Comment penser un récit de science-fiction sans un minimum de novum ? Donc voilà, dès qu'on sort de ce système-là, alors effectivement, c'est qu'on fait autre chose. Je vous rappelle que dans les années 1920 et 1930, il ne manquait pas de manuels d'écriture pour apprendre à rédiger les intrigues policières. Ce qui veut donc dire qu'il y a bien un modèle, un processus, une carrière, une trajectoire, et qu'on peut produire ces objets, et que la question du talent n'est pas ici le préalable, mais c'est la question de la description formelle du dispositif. Il y avait également, dans les années 30, dans les revues policières, tout un tas de concours opposant lecteurs et auteurs pour trouver les solutions les plus retorses à des énigmes qui étaient posées. Un exemple, il y en avait une, si mes souvenirs sont bons, c'était midi, Grand Central Station, une cabine téléphonique, un homme est assassiné. Exposition, visibilité, meurtre en huis clos, tout y était. 99 solutions ont été publiées par des lecteurs, à charge pour Larry Quinn de trouver la centième. Ce qui vous montre bien qu'il n'y a pas de solution à un récit policier, mais qu'il y a autant de solutions qu'on peut en inventer. Donc on voit bien qu'il y a, il y a là ici un système qui est préalable. Et aujourd'hui, les universités d'Europe du Nord sont fameuses pour leurs programmes et ateliers d'écriture où s'élabore le modèle imaginaire et narratif particulièrement efficace du polar septentrional. Donc la dimension technique et formulaire de la généricité pop est strictement corrélative des dimensions de la répétition et de l'axiologie. Mais il est possible d'envisager l'articulation de la répétition et du formalisme dans une autre perspective qui pourrait relever de la dynamique auto-légitimante des écritures pop. Ce dernier terme d'écriture mériterait quand même des explications, mais je le prends juste de façon pragmatique. Il me sert à confondre pour le moment les gestes de production et de création dans des domaines qui sont bien sûr différents, ceux de la littérature, du cinéma, ainsi que de la bande dessinée. Cette histoire de l'appréciation, de la dévalorisation et depuis les années 70 de la légitimation de la culture pop jusqu'à sa plus complète victoire symbolique aujourd'hui, grâce au poids notamment pris par les études culturelles, peut être envisagée précisément à partir de la dialectique, de la répétition et du formalisme générique. Cette approche repose sur une description et une appréciation différentielle des formes selon l'écart entre répétition et reprise. Ce à quoi je voudrais m'attacher maintenant. Cette approche qui essaye d'expliquer le fonctionnement des formes pop, des formes paralittéraires, comme vous voudrez, par la reprise, est parfaitement compatible, selon des réglages différents, avec toutes les méthodes dominantes qui ont été développées dans les études de la littérature populaire, que ce soit la thématologie, l'analyse structurale, la sémiotique ou les études culturelles. Cette manière de décrire la culture pop demeure une des manières la plus forte d'identifier et de caractériser aussi bien des types de textes que des pratiques d'écriture, des communautés d'auteurs ou de lecteurs, selon toute une économie des stéréotypes, de leur recyclage, de leur subversion et de leur hybridation. On peut ainsi décrire des formes figées, des formes innovantes, des formes répétitives, des formes qui au contraire se dégagent du modèle. Bref, toute l'évaluation de la culture pop, d'un certain côté, consiste à départir ce qui relève de la répétition et ce qui relève de la reprise, de stigmatiser les uns et de porter, d'instituer et de défendre, de légitimer les autres. Le critère discriminatoire de la répétition suppose de mettre au premier plan non pas l'originalité, que l'on ne reconnaît d'ailleurs jamais que lorsqu'on la rencontre, et cela relativement à l'horizon sur lequel elle se découpe, mais plutôt de développer une attention aux formes textuelles concrètes que prend le retour, les éléments sémantiques, sûrement, mais aussi les formes narratives, les procédés formels, les clauses, les tropes, ce qui revient toujours à élire l'objet pop à partir de l'analyse que l'on mène sur le coefficient de variation. Je ne peux pas m'empêcher quand même de ne vous rappeler qu'il ne faudrait peut-être pas oublier, à propos de l'idée de valorisation de l'originalité lorsque nous apprécions une œuvre, une formule assez définitive de Borges sur l'originalité, dont il disait que l'originalité n'est jamais qu'un autre nom pour l'amnésie. C'est-à-dire que nous trouvons originaux ce que nous ne reconnaissons pas et que nous n'avons pas perçu dans les formes antérieures. Les formes du retour constituent donc les conditions de possibilité même de la production des fictions, tout autant que de la description critique des artefacts pop et partant le système de leur promotion. Mais pour ce faire, les formes pop jouent d'une tension productive entre la stérilité de la répétition et la promotion qualitative d'une poétique reformulant les apories de l'identique pour les transformer en potentialité de la reprise. Pour limiter et peut-être éviter le piège que Simon Reynolds nous a imposé, celui de la rétromania et de la déperdition inhérente au ressassement et à la systématisation des doubles, ça c'est l'allégorie de multiplicity, il convient de lui opposer une poétique que nous baptisons recyclage ou reprise ou réécriture, qui exploite en les transformant, tout est là, les conventionnalités et les stéréotypes afin d'en tirer un jeu de contraintes qui est source de productivité nouvelle. De tels jeux de contraintes, souvent compris comme attachés aux genres eux-mêmes, ou plus récemment aux médias eux-mêmes, sont susceptibles à la fois de conserver les imaginaires anciens et les affects mémoriels puissants que mobilisent ces imaginaires, tout en les reformulant en possibilité dynamique de la transformation. Imitation et transformation, c'est dire qu'en stricte orthodoxie genétienne, on est au cœur de ce que le programme de Palimpseste a décrit comme transtextualisme. C'est donc aussi dire qu'avec l'attention, répétition, recyclage, reprise, on est aussi au cœur d'autres questionnements que nous reconnaissons, l'attention qui, les questions, par exemple, que traitait le paradigme de l'épuisement et de la recharge chez John Barth, ou des caractérisations de la reprise ironique telles qu'elles étaient formulées chez une critique comme Linda Hutcheon, ou encore la conception de la réécriture postmoderne exposée par Eco dans son apostille au nom de la rose. On voit bien que ces processus de transformation transtextuelle et métagénérique, je reprends le terme à Frederick Jameson, se sont radicalisés dans les années 70 pour s'identifier à la culture postmoderne du recyclage, du pastiche, de la parodie et de la citation. Ces données que je viens de rappeler semblent aujourd'hui dominantes dans la combinaison qu'elles opèrent des formes anciennes et des réécritures contemporaines, et qui font de la reprise des premières les conditions de possibilité d'écriture des secondes. C'est bien sûr dans un tel contexte, qui correspond à l'essor continu des procédures de légitimation institutionnelle de la culture pop, qu'il faudra dans un moment interroger la banalisation des formes et des discours méta dans un champ de production qui essentialise la question de la reprise comme sa dynamique spécifique. Pour Simon Reynolds, aucune société, je le cite, dans l'histoire de l'humanité n'a été autant obsédée par les artefacts culturels de son propre passé immédiat. Sans rester dans le domaine musical de Reynolds, il serait facile de trouver des allégories pop explicites de cette obsession dans des fictions inévitablement archi-réflexives. J'examinerai dans un tel instant les raisons d'une telle inévitabilité. On pourrait citer, par exemple, les thématisations méta du cinéma de Spielberg, de Super 8 en 2011 à Real Player One en 2018. On pourrait montrer la rétromania citationnelle des trois saisons de Fargo, le Grindhouse de Rodriguez et de Tarantino, ou même l'argument de Westworld, Inception, Dark et autres fictions didactiques méta, comme par exemple le manga Bakunan d'Obata et Oba, ou son pendant métaleptique américain The Unwritten de Mike Carey. Dans une culture qui articule obsession rétromaniaque et spectacle réflexif, la reprise réenclenche les conditions d'un projet expressif se constituant sur le fil permanent d'une négociation formelle, temporelle et culturelle entre la masse considérable des artefacts du passé et la production de ceux du présent. Alain Robbe-Grillet donne comme liminaire de son ultime roman en 2001 La Reprise un épigraphe tiré du philosophe danois Kierkegaard qui formule exemplairement la dynamique contradictoire de la création pop. Donc c'est le liminaire que Robbe-Grillet donne à son roman. Voilà la formule de Kierkegaard. Reprise et ressouvenir sont un même mouvement, mais dans des directions opposées. Car ce dont on a ressouvenir, cela a été. Il s'agit donc d'une répétition tournée vers l'arrière. Alors que la reprise proprement dite serait un ressouvenir tourné vers l'avant. On peut donc distinguer une pratique sclérosante de la répétition et une autre jouant des potentiels transformationnels attachés à la reprise. Bien, mais que signifie concrètement ce champ de possible offert par la reprise? Comment s'exprime-t-il? En quoi se distingue-t-il des apories de la répétition? Et surtout, en quoi est-il consubstantiellement méta? J'illustrerai ces interrogations par un exemple que je ne prends volontairement pas dans les corpus contemporains de la pop culture, mais dans celui classique du western hollywoodien et de ses reprises, de ses recyclages. Quelles sont les manières de faire revenir une image disparue mais chérie, une image dont l'absence nourrit le souvenir et la nostalgie? Le constat partagé est que cette image est désormais caduque dans ses formes d'inscription contemporaines, après que le crépuscule soit allié à son terme, je pense à Peking Pal et à Horde Sauvage, après que la relecture critique de la contre-culture à la fin des années 60 a proposé une interprétation révisionniste de ses discours idéologiques et de ses fabulations légendaires, je pense à Little Big Murder d'Arthur Penn, je pense au Soldat Bleu de Ralph Nelson ou à L'Homme sans frontières de Peter Fonda. Enfin, après le détour européen effectué auprès de Léon Corbucci ou Solima. Il y a essentiellement trois manières d'orchestrer le retour d'une figure oubliée, perdue, désirée. La première est néoclassique. Elle consiste à proposer des images et des configurations au plus près du moule ancien du classicisme et de la réflexion crépusculaire qu'il a engendrée. C'est dans les années 90 le White Earp de Kevin Costner, la Palousa de Ed Harris dans les années 2008, ou le Jenny Got His Gun de Gavin O'Connor, ou même Hostile, récemment sorti de Scott Cooper en 2018. Ça, c'est le premier mode de retour qui est néoclassique. Deuxième mode de retour, le mode maniériste. Il repose sur la rétrolecture, l'ironie articulée au formalisme et à la virtuosité figurale. Cette reprise joue des tropes et des scènes qu'elle expose, qu'elle autocommande souvent dans un jeu réflexif affiché. Elle a pour particularité, de renoncer aux scénarios originaux pour s'abandonner à la rétromania du remake. Ce sont les Django Unchained et les 8 salopards de Tarantino, le remake des 7 mercenaires d'Antoine Fuqua, celui de True Grit, des Cohen. Et le parangon formaliste de ce maniérisme est à mes yeux The Quick and the Dead de Sam Raimi en 95. Je ne sais pas si vous connaissez le film, j'en reprends l'argument rapidement. Il reprend le topos du duel et Raimi l'explore à l'occasion d'un concours de tir entre les meilleurs pistoleros de l'Ouest, ce qui va lui permettre de démultiplier les scènes de duel, tournant chacune d'elles comme une variation maniériste sur la situation canonique de la séquence de duel. Il subsume le motif sémantique central de pistoleros dans un concours à l'événement formel qui sans cesse le décentre en de nouvelles perspectives. Cela relève tout à fait de ce que Stéphane Delorme appelait très heureusement une étude figurale, une façon formaliste de tourner autour de la figure. Anamorphose et ironie se conjuguent idéalement dans la mise en scène pour voir dans l'exploration que fait Raimi du topos du duel une de ses expressions néo-baroques contemporaines, chère à Omar Calabrese, on y viendra tout à l'heure. Enfin, la dernière manière, qui n'est ni néoclassique ni maniériste, elle est spectrale. Elle s'impose au-delà du temps du crépuscule. Elle lui survit dans le temps historique en ramenant comme force critique une image mythique, ambiguë, critique, négative, interrogeant à la fin, par exemple, du Unforgiven de Eastwood, la nature du désir que nous avons de voir revenir de telles images. Cette spectralité se trouve, selon moi, dans des westerns comme le Black Thorn de Matteo Gil en 2011 ou The Homesman ou The Salvation. Même dans Les Disparus de Ron Howard, si on veut. Ces trois modalités de retour sont pleinement déterminées, chacune à leur manière, par une focale éminemment réflexive. Leur fiction est bien plus commentative qu'elle n'est argumentative, parce qu'elle rend prégnant les hypotextes qu'elle reprend et qu'elle les travaille à partir d'une focale qui est effectivement celle de la transformation ou de la transsexualité, si je me replace en régime genétien. La reprise qu'opèrent ces fictions est alors insécable de leur valeur de commentaire métatextuel, soit qu'il soit local, c'est par exemple le rapport d'Eastwood et de Ford, soit qu'il soit beaucoup plus général et qu'il s'adresse à l'effet de genre et à l'architectualité du genre tout entier. Le discours du genre est alors, par définition, par essence, transtextuel, et donc, par définition, réflexif, en ce qu'il explore les différences et les variations, les conformités et les évolutions de motifs et de formes ouvertement identifiables pour le spectateur. L'exemple des formes du retour prises dans le western est de fait paradigmatique. Et on pourrait le montrer sur bien des genres. Par exemple, on pourrait montrer que les métafilms hollywoodiens du Minnelli, Wilder ou Cukor dialoguent entre des âges et des états du cinéma différents, des techniques et de ses formes, de la place que les films occupent dans la culture, de la pertinence du cinéma comme imaginaire. On peut le faire avec le métafilm, on peut le faire avec le cinéma d'épouvante, on peut le faire avec le western. C'est cette réflexivité inhérente à la reconfiguration mémorielle des genres. Une analyse systématique, par exemple, de l'ouverture du Dead Man de Jim Jarmusch, jusqu'à ce que William Blake vienne buter sur l'iconicité monstrueuse de Mitchum et soit renvoyé dans le péril de la fiction, montrerait exactement le tressage des possibilités néoclassiques maniériste et spectral. Cette dernière image relevant pour moi de la dimension de spectralité. Voilà donc arrivé le moment d'effectuer, le nouage des deux volets de notre réflexion. Celui de la poétique de la reprise ou du recyclage, tel que nous l'avons jusqu'ici attaché aux apories de la répétition et à la dynamique de la nostalgie, et de l'autre, qui veut constater une banalisation dans la culture pop des figures du méta. Qu'est-ce que j'entends par figure du méta? Allons-y. Citation, pastiche, parodie, mise en abyme, niveau méta-narratif, métatextualité, métafiction, jeux et pièges et paradoxes réflexifs, métalepse fictionnelle et ontologique à tous les étages. S'il y a généralisation du méta dans la culture pop, c'est parce que celle-ci ne peut produire d'artefacts qu'à partir de l'auto-commentaire permanent que ces artefacts entretiennent entre eux à l'intérieur d'ensembles génériques à la fois étanches et poreux. Étanches parce qu'il faut bien des normes qui soient fixées et qui soient en partage pour les producteurs comme pour les usagers. Poreux parce qu'il y a possibilité de traverser à partir du moment où il y a frontière. L'appel à communication de ce colloque articulait très justement une donnée d'histoire culturelle qui attache l'ampleur du phénomène du recyclage ou de la transtextualité selon l'imaginaire théorique que l'on adopte, à l'analyse de Calabresi sur le néo-baroque, d'une part, et d'autre part, avec une situation relevant de l'écologie médiatique contemporaine, et notamment en faisant référence au test de Jenkins sur la convergence, l'hybridation des fictions, les interventions des communautés, étendant les usages des anciennes fictions souches. La synergie de ces explications, à laquelle personnellement j'ajouterais volontiers pour ma part la thématisation de la métafiction postmoderne dans la culture de l'épouvante à partir des années 80, et le miroir méta qu'ont profondément scellé dans les formes du récit général, le récit policier et la façon dont le paradigme de l'enquête et de l'herméneutique indiciaire s'est diffusé absolument partout, conduit à la généralisation d'un constat. La culture pop est méta, ou pour le dire autrement, reste-t-il une forme de culture pop qui ne soit pas méta ? Qui a lu un comic super-héroïque depuis 86, après les Watchmen, The Dark Knight, qui ne soit pas un méta-comics, dans l'acception que Camille Borin donne à ce terme ? Qui a vu un film d'horreur qui ne sature pas son dispositif d'une érudition intra-générique, visant l'hommage et la citation, mais pouvant tout aussi bien échouer dans l'allusion cuistre ou le coup de coude cinéphile ? Et même quand on voit des projets comme ceux des cinéastes français Maury et Bustillo, avec À l'intérieur en 2007 et leur récent remake, préquel, Les The Face en 2017, même quand ils ont des projets qui est clairement dans leur discours, entretien, interview, bonus de DVD, ils disent en vouloir revenir frontalement à une naïveté du genre. Ils demandent à assumer une absence de distance et vouloir retrouver la brutalité première, parce qu'ils souhaitent, disent-ils, se libérer de la tutelle réflexive de la génération précédente qui était ironique et méta, un peu condescendante de leur point de vue, avec cette brutalité qu'ils aiment. Et ils lisent ici Craven, Carpenter, Argento, Romero, cinéastes par ailleurs qu'ils aiment énormément, mais ils veulent s'en détacher. Et quand on regarde leurs films, on constate que les citations de motifs, les scènes en abîme, les figures que les spectateurs eux-mêmes produisent à partir des films, et là, je ne peux pas m'empêcher d'avoir en tête le sens du terme de figure que Martin Lefebvre utilise dans la question de la spectature, il est bien évident qu'on produit du réflexif dans les films, quand bien même on chercherait à s'en désengager sur le mode d'un retour à la frontalité du genre. Nous sommes des spectateurs qui ont trop vu de films, en fait. Eh bien, de telles perspectives replacent dans la circulation réflexive les films, quand bien même leurs créateurs entendent s'en détacher ou feignent de le faire. J'ai vu, le même soir, le dernier film de Pascal Laugier, Ghostland, et La nuit a dévoré le monde, de Dominique Rocher. Le premier film est une métafiction sous référence lovecraftienne, jouant d'un système de métalepse, portant la détermination des niveaux jusqu'au terme de la fiction d'horreur, avec des déboîtements permanents. Le second est une variation intimiste, économisant son gore, mais sans pourtant l'ignorer complètement, qui relève presque d'un cinéma d'auteur très français. Ma soirée fut des plus méta, et de fait, il n'est pas certain que le plus méta des deux films soit celui qui construisait le dispositif métafictionnel post-lovecraftien, etc., dans la mesure, effectivement, où la circulation générique de ces deux films s'inscrivant dans un horizon particulier, ne cessait d'entretenir finalement ce débat avec les formes du genre, quand bien même il les conteste, quand bien même il les subvertit, c'est encore à partir du motif que le spectateur mesure cet écart. C'est avec un autre exemple que j'emprunte au domaine de l'épouvante encore une fois, que je voudrais souligner le problème que soulève le ressassement néo-baroque des figures méta. Le corpus de l'épouvante, slasher, screamer, teen horror movies, campus movies, wrong turn movies, rap and revenge, etc., tel qu'il se développe à partir de Craven et Carpenter au début des années 70, La dernière maison sur la gauche, La colline à des yeux, 77, et Halloween de Carpenter en 78, donne lieu à une sérialité qui arrive à un moment donné à un point de sclérose. À partir du moment où la perception, d'une part, de la répétition et de la sclérose se produit, Elle va alors générer ses exagérations comiques et parodiques. C'est Cravel lui-même en 1996 qui intellectualise la reprise parodique sous le prisme du méta, en ouvrant une relecture ludique, analytique et hyper réflexive avec le premier Scream, film d'une série de 4 entre 1996 et 2011. Dans le film, il ne s'agit pas seulement de thématisation des conventions ou de mise en abîme plus ou moins appuyée, mais on découvre des jeux métaleptiques parfois surprenants, parce qu'ils supposent une authentique capacité spectatorielle à jouer avec les instances énonciatives et les niveaux diégétiques et métadiégétiques. 2 ans plus tôt, Craven, avec Freddy sort de la nuit en 1994, le 7e et dernier avatar d'une série qu'il avait lui-même délaissé devant sa médiocrité, et Carpenter, avec l'antre de la folie, avait, de façon presque synchrone, exploré l'articulation de l'horreur et de la métafiction pour produire 2 films très singuliers et qui possédaient d'authentiques propriétés déstabilisatrices dans le cadre du marché de l'épouvante et du spectatorat auquel ils s'adressaient. Pourquoi je précise ce point ? Tout simplement parce que des paradoxes méta dans le cinéma fantastique, on en trouve autant qu'on en veut, notamment chez Polanski, chez Raoul Ruiz ou chez Wojciech Haas, dans La Clepsydre ou dans le manuscrit trouvé à Saragosse. Mais avec ces cinéastes, on n'est précisément pas dans ce qu'il convient symboliquement et institutionnellement d'appeler des expressions de la culture pop. Scream est donc une parodie archi-réflexive de films d'horreur, mais qui tire ses effets horrifiants des enjeux réflexifs eux-mêmes. Scream va alors connaître très rapidement lui-même sa parodie avec une série comique qui, elle, ne parodie pas le premier corpus des films d'épouvante, mais parodie précisément le dispositif de Scream. Que produisait Craven. La série des Scary Movies, lancée par Keenan Ivory Wayans, 5 films de 2000 à 2013, est donc une parodie de parodie. C'est une méta-parodie, si vous me permettez la formule. Mais que parodie-t-elle exactement, si ce n'est le dispositif réflexif lui-même, faisant alors, de mon point de vue, parfaitement voir la neutralisation absolue de la charge réflexive présente dans Scream. Dans Scream, le réflexif était une sorte de gain ludique. Il permettait un jeu critique d'interprétation et de plaisir pris à cette interprétation sur un matériau de la culture pop qui était le film d'épouvante. Scary Movie me semble relever de la façon la plus cynique que la réflexivité est bien désormais à compter au rang des stéréotypes de la culture de masse et que partant, elle génère sa propre parodie dans un degré de dévitalisation qu'on est libre de trouver amusant ou pathétique. Nous embarquons ici sur ce point une autre question qui pourrait mériter alors un très long développement avec Shrek, avec le corpus de Batman, avec le canon holmesien, avec un mockumentary comme Behind the Mask, The Rise and Fall of Leslie Vernon, une sorte de mockumentary sur un tueur en série qui est suivi, je ne sais pas si vous connaissez le film, c'est très amusant, suivi par une équipe de télé, une équipe de jeunes journalistes, et y a notamment un passage extraordinaire où le tueur, ayant parfaitement lu Carol Clover et connaissant parfaitement la thèse de la Final Girl, théorise en direct le choix de sa victime à partir des arguments de Clover. Donc là, on est vraiment rentré dans un dispositif qui peut absolument rendre méta la critique même du méta. Donc on est rentré à un degré de déboîtement qui est tout à fait fascinant. Cette question est rendue patente dans la relation de l'hypertexte parodique de Scary Movie avec son hypotexte qu'est Scream. Comment rendre compte des parodies dont des hypotextes référentiels sont inconnus des lecteurs et des spectateurs ? Les jeunes spectateurs de Shrek connaissent-ils les films de Disney qui font de l'architecturalité du conte ? Et a fortiori, les contes de Grimm et de Perrault ou les récits médiévaux de chevalerie dont qu'ils constituent les textes référentiels ? Les lecteurs de Fables, le comique de Bill Willingham, connaissent-ils le corpus sur lequel tout l'argument de la série réflexive repose ? Que se passe-t-il quand la chaleur référentielle d'un signifié contextuel est trop faible pour supporter l'effet de sens méta sur lequel repose la reprise ? De Scream à Scary Movie, on s'est éloigné d'un degré de la relation métatextuelle première qui liait le film de Craven à l'architecte des films d'horreur. Il semble que dans l'âge du méta généralisé, le procédé parodique n'a pas besoin du terreau référentiel initial. Les films en parodiant une parodie font du film souche un socle hypotextuel autosuffisant. De fait, l'effet de son dédoublement revient à annuler sa fonction parodique. en une sorte d'autotélisme ricanant, d'un degré supplémentaire produit, mais attention, un degré qui le reste produit à l'intérieur du seul cercle parodique. J'ai bien peur d'avoir retrouvé ici mon allégorie de départ, et voir apparaître à nouveau mon double de double, le tiers et son quarteron débile, et qui se dévitalise à mesure que le nouvel avatar est reproduit, selon des projets idéologiques qu'il faudra quand même bien finir un jour par interroger. C'est là où Francfort va revenir. Si cette banalisation qui fait constater en tout point de la culture pop la saturation des marqueurs de réflexivité fait question, c'est parce que si on envisage les choses du double point de vue, d'une part de l'axiologie des objets culturels, et notamment littéraires, et de l'autre d'une histoire longue des formes réflexives, mais c'est qu'il n'en a pas toujours été ainsi. Rappelons-nous un instant de l'enfance critique de nos lectures, de nos visions de films, d'une innocence qui s'attachait à la représentation mimétique, à la fiabilité de la voie narrative, au vraisemblable des actions et des psychologies, l'époque où nous lisions dans la transparence de la motivation et des lois de causalité, bref, à tout ce qui nous permettait de lire aussi bien Balzac que le régime dominant des fictions populaires, c'est-à-dire, rappelons-le, l'écrasante majorité des textes, et qui nous permettait de nous abandonner avec un plaisir immersif total aux formes du récit et aux transactions avec la fiction. Et puis, vinrent ces œuvres, et très différemment pour chacun d'entre nous, qui renversaient tout cela. Et je ne parlerai donc un instant, vous m'en excuserez, que pour moi. Ce fut dans mon cas Jacques le Fataliste, et Agatha Christie, le meurtre de Roger Ackroyd, et Queneau, et Stern, et Nabokov, La Méprise, et Borges, Brotigan, Perret, Calvino, et Gottlieb, Michael Powell et Hitchcock, et donc De Palma, Woody Allen et Godard, mais aussi Tex Avery, et la métalepse radicale de ses crayons qui repousse de la mine Crazy Squirrel quand il court trop vite et qu'il sort du champ, et révélant ainsi le cadre, et donc le médium qui est en train de le produire. C'est également Blow Up, le photographe de Blow Up, déconstruisant plan à plan la question des cadrages et du montage. Et puis c'est Gaston Leroux, et la grandiloquence hyperbolique d'une parodie de Sublime Hegelien qu'il transforme de façon rigolarde. Enfin, c'est la complexité des mises en abîme et des ekphrasis chez Lovecraft. Moins qu'un trajet biographique qui redit le chemin que j'ai parcouru, je voulais citer ce type de texte. Pourquoi ? Parce que toutes ces inscriptions réflexives ne fluidifient pas le récit et la fiction, ne s'y intègrent pas. Au contraire, elles le malmènent, elles le défont, elles surgissent telles des voix intempestives comme celle du narrateur de Diderot, ou le regard caméra de Michel Poicard dans Un bout de souffle. Rappelez-vous, si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la campagne, allez vous faire foutre. Elles surgissent pour déranger l'ordre du récit, pour casser les règles, pour indisposer les cadres de la représentation narrative ou iconique. Des interruptions, des irruptions, des disruptions, faire un hiatus, un accro dans le texte, tirer un fil qui, à le suivre, risquerait bien de détricoter tout l'édifice. Parmi les sens de réflexivité, il y en a un que j'aime tout particulièrement et que l'on retrouve en physique du mouvement. La réflexivité est la science qui mesure l'effet rebond d'un corps rencontrant une surface, c'est-à-dire rencontrant un obstacle. Rappelez-vous, avant que tout ça soit devenu un stéréotype, il fut un temps biographique peut-être, ou collectif, culturel, où l'on se prenait la réflexivité en pleine face, où le choc de l'incongruité n'était pas un gimmick habile, un temps où les œuvres, un temps et des œuvres où le méta n'était pas cosmétique, mais était critique. C'est une chose d'être un rêveur s'éveillant, même conscient du stéréotype dans lequel on se trouve, c'en est une autre d'être un rêveur rêvé par un autre rêveur. La réflexivité comme choc et comme rupture, voilà ce qui a longtemps constitué la valeur de sa charge critique et le sens de sa manifestation dans les œuvres. Lorsque dans figure 3, Genette définit la métalepse, il y voit avant toute chose, je cite, un effet de bizarrerie bouffonne ou fantastique, qui montre bien que la transgression, fin de citation après fantastique, qui montre bien que la transgression de niveau narratif diégétique et ontologique est attachée à sa relative exception, dans le régime d'un texte. En ce sens, la métalepse était, devrait être une incongruité, l'est-elle encore ? Dans un tel état de généralisation culturelle pop, les motifs réflexifs du plus évident, la mise en abîme et l'allusion référentielle au plus complexe, comme les dispositifs métafictionnels qui mettent en crise les frontières entre les mondes, ont-elles conservé leur potentiel critique intact ? En effet, si tout est réflexif, alors autant dire que plus rien ne l'est. Si toute frontière suppose sa porosité et que tout niveau généralise l'effet de possible métalepse, alors aucune transgression authentique n'est possible dans un régime de transparence et de fluidité absolue. Quel pouvoir de décentrement conserverait la fiction si l'effacement des limites est acquis et thématisé dans les fictions elles-mêmes, si elle est un préalable et non pas un horizon? Après tout, c'est peut-être une bête affaire générationnelle ou une chronologie biographique de mes lectures qui me fait bâiller littéralement devant l'argument méta de Inception de Nolan, tout en étant bluffé par les effets de monde que déploie son imagerie numérique. Alors qu'aujourd'hui encore, je ressens toujours aussi fortement ce qu'il y a d'absolument, de radicalement subversif pour l'idée même de récit et de fiction, dans un récit où Rouboros, c'est ce serpent qui se mord la queue, si vous voulez, un récit de 3 pages, pas besoin de plus, chez Cortazar, et qui s'appelle « Continuité des parcs », et qui pose absolument le paradoxe de ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire de lire un récit de fiction. Par leur subversion des cadres représentationnels, narratifs, fictionnels, par l'introduction spéculaire des instances énonciatives et productrices, par leur inscription de la matérialité des médiums, les formes réflexives ont toujours été à entendre comme des problèmes surgissants, d'accord, souvent de façon ludique, mais des problèmes tout de même. En ce sens, parce qu'elles sont d'abord apparues comme surprenantes, sophistiquées, subversives, les figures réflexives ou les boucles paradoxales du méta ont pu être décrites comme les meilleurs agents d'une conception critique de l'expression artistique, servant la valorisation des œuvres, de courants ou d'artistes qui s'en prenaient au régime dominant et normé de la représentation. Si l'on faisait l'histoire de l'institutionnalisation et de la légitimation des auteurs et des œuvres de la littérature populaire, il faudra bien la faire un jour, hein, de la littérature populaire, de la culture de masse, aujourd'hui de ce qu'on appelle la pop culture, ou les médias culture, terme français, employé plutôt autour de l'équipe Maigret et Massé. Une stratégie, on pourrait montrer le rôle considérable qu'a joué ce que j'appellerais la plus-value réflexive. Une stratégie aura donc consisté à montrer la littérarité, la complexité de la textualité paralittéraire. J'assume pas le terme de paralittérature, hein. Je l'emploie tout simplement parce qu'il est pratique. Et dès lors qu'on l'emploie, c'est qu'on désigne le texte populaire dans une espèce de relation d'altérité à ce qui serait de la littérature. Mais il est intéressant de voir comment on a pu doter le texte paralittéraire d'une qualité réflexive qui permettait alors de faire d'auteurs parfaitement conscients du travail de la forme et de la langue qui était le leur, et qui travaillaient depuis les territoires des genres d'authentiques écrivains. Là où l'on ne voulait voir en eux d'ordinaire que des professionnels aliénés dans une pratique alimentaire conçue aux antipodes de la création authentique. La réflexivité a donc littéralement servi les stratégies de légitimation des cultures pop, permettant ainsi de valoriser les figures et leurs productions. Pourquoi ? Ben tout simplement parce que la théorie littéraire à partir des années 60 a fait de la réflexivité un des critères définitoires essentiels de la littérature. Elle a fourni ainsi une ligne de combat qui s'est jouée au plan textuel et qui a conduit à légitimer sur le terrain le plus esthétique qui soit des œuvres qu'on n'imaginait pas pouvoir défendre sur ce terrain. Je pourrais le montrer très facilement en convoquant l'essai d'Annie Combes sur Agatha Christie, le travail de Charles Grivel ou de Jean-Claude Vareille sur Gaston Leroux ou Maurice Leblanc, mais on pourrait aussi le montrer avec les lectures qui ont été faites en France, notamment de la réception de Dashiell Hammett, immédiatement perçue dans sa dimension d'écrivain, hein, et notamment autour de la technique de focalisation. On le montrerait par exemple aussi avec les discours auctoriaux de quelqu'un comme Jean-Patrick Manchette. Tout un pan de l'œuvre de Stephen King autour de la période Misery, La part des ténèbres, minuit 2, minuit 4, sont d'authentiques discours métafictionnels et métalittéraires qui ont grandement contribué, notamment dans la critique française, à entendre effectivement cette dimension réflexive et donc littéralement de doter d'une plus-value littéraire des textes dont le statut est à l'origine problématique. Finalement, ce qui n'était pas légitimement tenu pour littéraire pouvait le devenir en partie parce que ces textes s'avérait porter intrinsèquement un souci qui était celui de toute expression artistique authentique. Cette stratégie de la plus-value réflexive faisait des indices et des marqueurs méta autant de passagers clandestins qui, une fois débusqués, dotaient le texte mineur d'une légitimité nouvelle. Par ailleurs, on peut également faire l'hypothèse d'une sophistication croissante des usagers, lecteurs et spectateurs, ce qui en soi est assez valorisant pour les formes artistiques dont on peut penser que
Si elles répondaient à une demande, elles avaient aussi contribué à faire évoluer qualitativement lecteurs et spectateurs. En attesterait par exemple le succès grand public d'œuvres au dispositif notoirement complexe parce qu'effondrément réflexif, comme ce fut le cas des Metacomics, de Miller, de Moore, d'Ellis ou de Willingham. Finalement, devant une culture savante toujours plus en rupture avec la grande masse des lecteurs et des spectateurs, la pop culture arrivait désormais à une sophistication réflexive, tout à fait de bon aloi, dont les séries télé contemporaines constituent un assez bon exemple. De True Detective à la métapolitique de Game of Thrones, de la méta-énonciation en voice-over d'House of Cards au laboratoire réflexif de Sense8 ou Westworld, on peut nommer des séries graphiques aussi exigeantes au plan des jeux réflexifs que The Unwritten de Cara et Cross, Providence de Moore et Burrow ou Lock and Key de Joe Hill, ainsi qu'un pan entier du corpus contemporain de Batman qui relève d'opérations fictionnalistes abstraites et complexes. Plus généralement, les reboots et les univers alternatifs supposent une sophistication croissante des relations des lecteurs avec les mondes de la fiction. Tous les items que je cite témoignent bien que la culture pop engendre une émancipation des cadres narratifs et fictionnels conventionnels, à moins que ces cadres soient désormais relativement mineurs ou qu'ils ne soient que résiduels dans des univers génériques très marqués, le western, la comédie de mœurs, la série médicale, la série de vikings, etc., et qu'alors il faille inverser l'hypothèse et conclure qu'une telle sophistication pourrait elle aussi être l'expression d'une stéréotypie ou d'une néo-conventionnalité. Que la culture pop soit devenue intrinsèquement méta signifie-t-il si assurément le gage de sa maturité critique ? Cela implique-t-il nécessairement un geste émancipateur rechargeant les formes poétiques de sa production comme celle de sa réception ? C'est sur ce point que l'on peut reprendre rapidement les hypothèses de Calabrese et notamment celle d'Angela Dialganis dans son Neo-Baroque High Ethics and Contemporary Entertainment de 2004. En décrivant le formalisme contemporain, ses tropes de prédilection comme relevant de ce que on a pu appeler à une époque un littérature théorie littéraire un néon baroque qui s'opposerait à l'autre grand néon qui serait le classicisme, les analyses de Calabrese et Dialganis, et surtout de Dialganis, puisque dans les items qu'elle choisit beaucoup plus que Calabrese, elle s'intéresse à la culture pop et véritablement la travaille à partir de d'argumentations type esthétique, ces analyses donc conduisent à privilégier une prolifération de motifs, de lignes de fuite, d'excroissance hors des centres normés des modèles narratifs qui reposeraient trop exclusivement sur l'argument scénaristique ou sur le primat sémantique des intrigues. Ça se montrerait assez facilement avec True Crimes, Top of Lake et surtout les séries Bates Motel et Hannibal. Pas de baroque ou de maniérisme sans émancipation figurale et, partant, pas d'autonomie figurale sans scène réflexive révélant le médium et le geste organisationnel et artistique qui l'informe. Or, c'est là que le néo-baroquisme contemporain, après le néo-maniérisme postmoderne qui préoccupait les années 1990-2000, c'est là que ce néo-baroquisme contemporain va rentrer en résonance certaine avec la critique de la rétromania proposée par Samuel Reynolds que j'évoquais tout à l'heure. Je le rappelle, la question de Reynolds était la suivante. Je cite Reynolds, « La nostalgie freine-t-elle la capacité de notre culture à évoluer ? Ou sommes-nous nostalgiques précisément parce qu'elle a cessé d'évoluer, nous obligeant à nous tourner vers un passé substantiel et dynamique ? Mais que se passera-t-il quand nous serons à court de passé ? » Reynolds envisage donc la perspective de l'épuisement et formule une inquiétude sur le rapport au présent, qu'il définit comme l'exigence d'une urgence, le rapport du présent et le rapport du présent et du futur, pardon, et le futur s'envisage chez lui comme la possibilité même qu'il y en ait un qui ne soit pas la simple recombinaison du passé. On le voit, ce sont donc trois variables qu'il faut faire jouer dans cette dialectique critique que formule Reynolds. Le néo-baroque, l'épuisement, la réflexivité. Je poursuis avec Reynolds. C'est dans le lien qu'entretient la musique pop avec la nouveauté et l'instant présent que réside la capacité incomparable de la pop à distiller l'ambiance d'une époque. Est-ce à dire alors que la culture pop contemporaine, parce que fondée sur le recyclage ou la répétition, échouerait à saisir le présent ? sauf, bien sûr, si la réflexivité, le doubling, le méta, est précisément ce qui caractérise l'ambiance de notre époque. Il se pourrait bien que sous sa forme dévitalisée, sous l'espèce d'un gimmick inoffensif ou d'une illusion de distance, la pop culture soit parfaitement synchrone de l'air du temps. Les époques particulièrement réflexives peuvent être lues de deux manières, et de deux manières qui sont strictement opposées. Soit les époques réflexives sont décrites, les époques baroques, maniéristes, etc., soit elles sont décrites comme le sommet de la maîtrise d'une forme parvenue au plus haut degré de conscience d'elle-même, soit à l'inverse, elles sont envisagées comme le symptôme d'une dévitalisation autotélique coupable, l'expression d'un art à l'agonie qui ne peut plus tirer sa substance que de sa propre matière. La première perspective voit dans le geste baroque et maniériste, dans le formalisme réflexif, dans l'autotélisme de l'art et l'autoréférentialité de l'œuvre, une résistance au discours dominant et centralisateur. Elle défend une approche qui cherche dans l'expansion des motifs décoratifs, dans les zones marginales contre le centre, dans le pli et l'inclusion, dans le miroir et la bibliothèque, dans l'événement de la langue ou les possibles antimimétiques de la fiction, tout à la fois ce qui serait de l'ordre d'une fuite, d'une résistance et d'un processus de recharge. A l'inverse, la perspective qui veut lire la réflexivité baroque ou maniériste comme une dévitalisation autotélique va condamner tous les formalismes pour un désengagement des œuvres quant à la prise en charge d'un discours sur le monde référentiel, la réalité, les conditions historiques, religieuses ou sociales. Si le régime pop contemporain des fictions peut être alors lu comme néo-baroque sur le plan esthétique, son mode de production par les industries culturelles, pardon pour cet habitus adornien, mais on ne se refait pas, par les productions culturelles contemporaines, ainsi que sa motivation en tant que produit de divertissement, le conduit à retrouver les vieux reproches anti-baroques et de fait anti-réflexifs. C'est ce que faisait finalement de façon implicite ma remarque au passage, comme ça, opposant une réflexivité que je trouve inessentielle chez Nolan, là où je lui reconnaissais une valeur critique chez Cortázar. L'inanité à mes yeux de l'argument réflexif dans Inception n'est après tout qu'une affaire de subjectivité ou de formation critique. En revanche, le fait que j'apprécie dans le film de Nolan l'exposition formaliste de certaines scènes m'amène de facto à illustrer cette position anti-baroque et anti-réflexive. Je reconnais bien dans ce film un épuisement de la portée critique de l'argument réflexif, pour ne plus conserver que la réflexivité médiatique de son dispositif et l'agrément que j'en tire en tant que matière du spectacle. Libre à moi de trouver Avatar un médiocre western, mais un métafilm passionnant sur la manière de fabriquer des images et de représenter des interactions entre les mondes. De neutraliser toute lecture sémantique au nom précisément de la répétition, de la reprise dont je juge les ficelles fastidieuses, mais ne plus en opérer qu'une lecture réflexive, le discours que Cameron tient sur la question des images et de son rapport à la technologie. Ce faisant, je valide contre ma propre proposition, légitimante et inclusive, un argument anti-baroque, et je conserve une réflexivité de spécialiste méta, un peu dandy, coupée du flux commun des grandes fictions partagées, dans lequel l'argument réflexif constitue la portion congrue et ne relève plus que du motif technologique et des meilleures conditions d'accomplissement du spectacle. Privilégier la séduction baroque sur le contenu de l'argument, donc la forme sur l'intrigue, la figure contre le récit, l'autonomie du monde sur l'allégorie disponible pour mon présent, c'est-à-dire ne pas croire un instant à cette histoire d'Indien, de Gaïa, de fable écologique, d'impérialisme néolibéral, etc., peut constituer un sérieux écueil pour tout spectateur désireux de trouver un discours consistant tenu sur son monde à partir d'une focale de science-fiction telle qu'on peut la trouver dans 2001, Solaris ou Stoker. On voit donc qu'à mesure que la réflexivité s'est répandue dans toutes les strates de la culture pop, et après que cette extension ait pu constituer le processus dynamique d'une complexification et d'un enrichissement mutuel des œuvres, de leurs auteurs et de leur public, la question de sa dévitalisation, c'est-à-dire de sa neutralisation critique, se pose d'autant plus qu'elle intervient dans un contexte qui associe critique du formalisme, anti-réflexivité et anti-baroquisme. Il ne manque plus qu'un vieil ennemi à faire venir à la table, c'est l'argument anti-escapiste, qu'on connaît bien, en tout cas chez les spécialistes de fantastique, de SF ou de ces littératures dites de l'imaginaire. Reste donc au seuil de conclure
la trajectoire, à se demander si la culture pop n'aura pas finalement participé à la liquidation de l'héritage réflexif et de sa portée critique pour n'en garder que les jeux formels, la séduction en miroir d'artifices toujours surprenants, mais les limitant au rang d'attraction réflexive. Finalement, par cette neutralisation des valeurs critiques et subversives de la réflexivité, la culture pop offre un argument de poids aux ardents opposants à toute dépragmatisation des récits de fiction et à toute dimension autotélique ou autoréférentielle des œuvres. On sait tous qu'il y a de puissants mouvements de balancier critique et que l'heure n'est plus au méta aujourd'hui, à la réflexivité et aux enjeux de la fiction autotélique et aux jeux de fiction autotélique. On entend désormais de nombreuses injonctions critiques d'en revenir au factuel, à la dimension d'archive de la littérature, ou l'inverse, à la dimension littéraire de l'archive, à la nécessité éthique de prendre en compte les réalias, le monde dans son urgence politique, économique et sociale. D'aucuns évoquent même un paradigme documentaire de la littérature qui serait la marque du XXe siècle. Le méta de la génération postmoderne précédente constitue alors le parfait repoussoir de cette éthique-là, de la fiction, avec tous les risques de porosité de l'actuel et du fictionnel, d'indétermination du statut du discours, et pire, du relativisme éthique et politique. Je rappelle qu'à Paris, en octobre 2017, le 7 octobre 2017, on faisait le procès de la fiction, procès lors duquel s'affrontaient à nouveau ségrégationnistes, ceci est de la fiction, ceci n'en est pas, urgence de faire repasser la frontière, et de l'autre côté, des historiens notamment, défendant les vertus de l'histoire contrefactuelle aux côtés d'écrivains et de philosophes rapidement soupçonnés de panfictionnalisme. Dans ce contexte, on peut bien comprendre que les jeux formels de l'économie de la reprise, les miroirs et les plaisirs méta, ne soient plus à l'ordre du jour. Pire qu'ils soient les signes d'une pratique conventionnelle, normée, productrice d'illusions dérivatives. Si de tels jeux sont désormais caractéristiques de la pop culture, et que ceux-ci, par la banalisation, n'ont même plus l'argument de leur portée critique, le discrédit sur cette ludicité coupable et irréalisante est désormais complet, avec la démotivation de la perspective réflexive réduite à une sorte de néostéréotype méta. On atteindrait ici l'ultime étape de l'aliénation, dont seraient essentiellement vectrices les logiques capitalistiques, industrielles et médiatiques qui président à la production de la culture pop. Mais si l'on entend encore, de façon têtue, croire à une dimension critique de ces fictions, certaines d'entre elles, et de les maintenir alors dans la continuité d'une tradition théorique qui les envisage comme d'authentiques procédures de complexification émancipatrice des lecteurs et des spectateurs, peut-on encore penser qu'il y ait des formes de réflexivité, d'où la parenthèse DS dans mon titre, qui seraient encore possibles dans les médiacultures contemporaines? Le dossier s'ouvre, la question est trop large pour une conclusion, ou même une typologie des réponses. Je ne voudrais faire que deux propositions pour conclure et proroger l'inscription de formes et de questions que l'on peut aussi penser dans un écho lointain d'une tradition romantique comme des propriétés qui sont consubstantielles de l'œuvre et de la pensée qui les informe. Première idée, contre les grands ensembles de lectures génériques, mais aussi contre l'hégémonie des études culturelles dont le projet est d'établir les rapports des éléments sémantiques et syntaxiques des fictions avec leur dehors socio-historique, il serait peut-être pas inintéressant de réintroduire les questions démonétisées ces temps-ci de l'esthétique et de la poétique. Parce que la première, l'esthétique, n'est pas un système d'évaluation normatif, mais une réflexion sur la comparaison et l'examen des singularités dans des ensembles dont les contours sont des préalables à établir. Les esthétiques réflexives sont différentes dans les fantastiques français, américains, sud-américains, par exemple, selon des moments et selon des filiations qui sont différentes. Elles le sont dans les années 2000, par exemple, entre les films d'horreur asiatiques et les films d'horreur américains. Et seule l'analyse textuelle et formelle, j'ose pas dire la micro-lecture, seule l'analyse textuelle et formelle est à même de mettre mutuellement à l'épreuve l'œuvre et la théorie, de vérifier au risque de l'interprétation et de la prise de position critique ce qui distingue, différencie le produit de l'œuvre, la répétition démotivée de la recharge s'effectuant dans la reprise. Bref, la prolifération numérique de Matrix contre le classicisme du montage auquel répond le Existence de Cronenberg. La réflexivité bloquée d'Inception
contre celle du comics dont vous avez déjà vu des extraits, enfin des Unwritten, ou le Black Hammer de Jeff Lemire, ou My Favorite Things is Monster d'Emile Ferris. Parce que la poétique permet la circulation entre, d'une part, les ensembles plus ou moins précisément déterminés, et d'autre part, les cas que représentent les singularités, d'autant plus intéressantes qu'elles parviennent à s'exprimer dans le cadre de productions que d'habitude on envisage normées, déterminées, par des conditions de production, de rentabilité dominantes. Il n'y a qu'à examiner la production pop des comics contemporains pour voir l'inventivité graphique, narrative et métagénérique qui est incessante et dans laquelle une poétique des formes réflexives me semble toujours des plus actives. La question de la pertinence critique des formes réflexives pourrait-elle alors ne se faire qu'au cas par cas, au ras du texte et de l'image, par l'exercice de quelque chose qui a peut-être tendance à disparaître, par l'exercice de la critique, c'est-à-dire en rechargeant l'agone argumentatif et la prise de position théorique. Les amateurs de Nolan ne sont pas d'accord avec moi? Très bien. Faisons alors ce travail de lecture. Discutons pied à pied les signifiés politiques, idéologiques et à partir des enjeux des signifiants réflexifs. C'est en ce sens, de mon point de vue, croire encore à la dimension politique des formes. Retrouver cette dimension politique des formes, la faire parler, recharger fictions et lectures par ce jeu-là. Je crois à ce cas par cas, car c'est l'enjeu du travail critique. C'est trop facile à faire sur un objet pop idéal et consensuel comme Black Mirror, qui est véritablement un problème, un programme théorique méta, probablement efficace, mais dont le didactisme peut aussi constituer la limite. J'aimerais plutôt, par exemple, l'examiner dans le cas d'American Gods, le film, le roman et la novélisation graphique qui vient d'en être issue, et cela dans la comparaison avec un autre cycle qui pense le problème du mythe et de l'engendrement de la fiction par le mythe, le cycle des Mythagos de Robert Holstock, développé en 1984. J'aimerais le faire sur les comics cités plus haut, mais j'aimerais aussi le faire sur des comics qui sont beaucoup moins réflexifs que cela, Black Science, par exemple, ou Southern Bastard, ou j'aimerais le faire sur un film français récemment sorti, j'ai oublié de faire la diapo, un film de Coralie Farja de 2017 qui s'appelle Revenge, et qui est effectivement une version contemporaine à partir d'un point de vue d'une metteur en scène femme sur un genre qui est le rape and revenge, et dans lequel il n'y a pas a priori de marqueur réflexif évident. Et en même temps, c'est un film, il suffit de le regarder 5 minutes pour voir, en termes de mise en scène, de mouvement d'appareil, de questions de cadrage, de filtre, etc., tout le travail réflexif au sens propre que Coralie Farja opère sur le film et sur le rapport du film à son genre. La seconde idée, donc reconstruire des enjeux réflexifs à partir d'une lecture esthétique et poétique des films eux-mêmes, des œuvres elles-mêmes. Deuxième idée, et je termine là-dessus, la seconde idée tient une conséquence embarquée dans mon analyse et qui peut faire jouer autrement la réflexivité. Non pas celle attachée à des figures, la mise en abîme, à des thématisations, des personnels de créateurs ou symbolisant de façon diverse la problématique de la création, savant fou, fabricant de robots, etc., ou même des jeux de niveau métaleptique. Il y a une forme de réflexivité qui laisse voir des mutations d'importance dans certains secteurs de la culture pop et qui peut être indicatrice de nouveautés, au moins dans la façon de voir les objets. Dans le livre d'Alain Boualia, Cinéma, machine à monde, paru en 2014, il nous invite à penser ce qu'il appelle un tournant mondain qui affecte profondément les objets de la culture pop, les films de SF et les blockbusters. J'explique la thèse de Boualia en deux mots. Pour Boualia, la façon dont le cinéma nous propose de voir, d'observer les mondes eux-mêmes, leurs paysages, leurs architectures, les formes de vie qui s'y déploient, les objets techniques, la manière dont il nous montre les protagonistes habiter et circuler dans l'espace diégétique, fait en soi événement fictionnel, spectacle désirable, et ce spectacle est, selon Boualia, largement suffisant à l'attention et à l'immersion. Mieux, il est devenu la motivation même de cette immersion, et elle est supérieure, selon lui, à celle des intrigues et des événements. L'hypothèse mondaine veut donc que les mondes prennent la préséance sur les contenus sémantiques des récits. Non pas que ceux-ci disparaissent totalement, mais les mondes ne sont pas les fonds sur lesquels les actions se déroulent, c'est l'inverse. Les récits sont les procédures, les intrigues sont les vecteurs qui permettent de parcourir et d'habiter ces mondes.
Je mettrais volontiers en rapport une telle autonomisation de la composition des mondes, au détriment de l'argument narratif, avec l'hypothèse baroque que j'évoquais tout à l'heure. Ces mondes, dans leur réalisation virtuelle et scripturaire, sont toujours des mondes hyperboliques, qui sont des alternatives de fuite, de dépliement ou de failles inclusives. Charles Jodoin-Kitten, dans un essai consacré au cinéaste et artiste tchèque Jan Svankmajer, écrit à propos du maniérisme la chose suivante. « La tendance à l'hyperbole, à communiquer une idée par le biais d'une expression qui la dépasse, se manifeste dans cette particularité du maniérisme à laisser la matière céder la place à la manière. » Laisser la matière céder la place à la manière. Il faut faire jouer, bien sûr, le double sens du mot « matière » et entendre tout autant le sujet, le sens, le signifié. Dans les œuvres mondaines, la matière, c'est la manière. C'est la composition de mondes distincts à partir d'une organisation formelle extrême qui tient à la fois la matière technologique, le numérique principalement, mais aussi à une très vaste anthropologie culturelle s'effectuant dans la fiction. Du Seigneur des Anneaux aux cités obscures de Peter C. Schwitten, des mondes de Dune à ceux de Minority Report, des mondes de Hellboy au scénario de Jodorowsky, faire des mondes, c'est lourd, c'est dispendieux. L'invention mondaine, ça peut prendre en charge de la géographie, de la monnaie, de la généalogie, on peut faire des listes, rédiger des codes, des glossaires, on peut proposer des alternatives à tous les aspects de la vie que nous connaissons et surtout on peut en inventer de nouvelles. Précisément parce que ces mondes sont saisissants d'être formellement, et la plupart du temps technologiquement, innovants, surprenants, différents dans leur radicalité et leur écart, ils instaurent deux types de réflexivité. L'une est spéculaire et suggère un retour critique sur les formes de vie qui sont les nôtres, à la manière de la vocation réflexive de toute fiction d'anticipation, d'uchronie, de merveilleux, ou plus largement de configuration science-fictionnelle. Mais ce que l'hypothèse de la préséance mondaine sur la péripétie diégétique laisse entendre, c'est que ce retour critique sur le monde, qui est tout à fait banal en science-fiction, hein, que ce retour critique sur le monde de la réception et les inquiétudes possibles quant à son devenir ne repose plus simplement sur les actions que pourraient tenter d'y accomplir des personnages, mais sur la seule présence d'un vis-à-vis alternatif dont nous faisons l'expérience perceptive et que nous tentons éventuellement d'interpréter. Une expérience qui nous force à penser et à éprouver l'écart, des fois terrifiant, mais des fois éminemment désirable, entre la fiction mondaine et la situation référentielle de ma réception. L'invention mondaine radicalise, par un effet d'abstraction de l'événement narratif, l'expérience de la fiction comme espace, comme condition de possibilité des interprétations et comme expérience de pensée suffisante au plaisir que l'on y prend. Si je reformule ce dernier point dans la perspective critique et esthétique, esthétique et poétique que j'évoquais il y a un instant, c'est le type de question que l'on pourrait choisir de traiter dans une relecture du recyclage de la réflexivité et de la dimension mondaine entre le Blade Runner de Ridley Scott dans toutes ses versions et le Blade Runner 2049 de Roland Villeneuve. C'est à partir de ces questions, je pense, qu'on peut traiter de l'écart de ces films et de mon point de vue de l'échec du second. Quant à la seconde perspective réflexive que cet accent mondain est susceptible de recharger, il tient à la négociation hyperbolique et néo-baroque que j'évoquais plus haut. Dans l'articulation matière-manière, telle que le régime technologique qui préside au spectaculaire des mondes de cinéma que nous voyons et que nous constatons sur nos écrans. Hein ? En effet, le plus souvent, ces mondes supposent moins le spectacle d'une totalité grandiose que l'exploration de cellules, de bulles, de détails, des plis et des expansions baroques, des intérieurs, des possibilités technologiques qui redéfinissent en profondeur l'état du monde diégétique présenté. Or, ces mondes sont pour la plupart ceux de l'effet numérique. Et par leur performance et la surenchère technologique qu'ils reconduisent à chaque nouveau film, ces mondes ne cessent de nous mettre dans une condition réflexive très particulière et éminemment contradictoire. En effet, ces mondes nous demandent deux choses différentes à la fois. Ils demandent à la fois, pour le plein effet de l'immersion et de l'adhésion à leur fiction, une naturalisation croissante de ce qu'ils ont d'original et de singulier en tant que monde. Et en même temps que nous devons effectuer cette naturalisation, nous devons reconnaître en même temps qu'elle ne dépend jamais que de l'extrême efficacité de l'artifice technologique qui est en train de l'animer. Ce qui revient, en clair, à devoir adhérer à une performance mimétique tout en reconnaissant l'extraordinaire aptitude de l'outil technologique à la produire. Nous sommes de facto dans une contradiction que pendant très longtemps on a essayé de dissocier, dont on dissociait les deux termes, la logique de la participation et la logique de la distanciation. Eh bien, par définition, les univers mondains nous font spectaculairement constater la logique de l'adhésion immersive, ce que j'appelle la naturalisation, mais on ne peut le constater qu'à partir de la reconnaissance de l'extraordinaire technicité de leur artifice. Hein. C'est le côté bluffant des autres, et j'allais dire de la surenchère technologique que le cinéma américain, notamment hollywoodien, mais pas seulement, hein, est en train de développer. Donc on le voit bien, au cœur de ces histoires, on fait l'expérience d'une altérité mondaine. On passe d'un monde à l'autre, on voit des mondes qui en contiennent, qui en engendrent, qui en détruisent d'autres, mais on ne le fait qu'à partir d'une permanente reconnaissance de la matérialité, du dispositif médiatique au sens du dispositif technologique, qui peut lui-même se constituer en spectacle. Hein. Et bien entendu, pour tous ceux que les films de super-héros, tous ceux qui dans cette salle trouvent que le blockbuster de super-héroïque est souvent, comment le dire, de façon non polémique, que son scénario pourrait tenir sur une feuille de papier à cigarette, par exemple, mais qui sont emballés, par exemple, par toute la séquence d'ouverture Dr. Marvel, par exemple, hein, une sorte de relecture de l'ouverture d'Inception de Nolan, voit bien que, à la fois, la puissance immersive du cinéma est requise, et qu'en même temps, ce qui fascine dans le spectacle n'est bien sûr pas l'actentialité, ni l'agir des personnages, mais l'agir de l'image elle-même. De l'image lui-même. Et là, on retombe exactement dans la définition que, Danet avait quand il parlait du maniérisme au cinéma. Le maniérisme, c'est le moment où il ne se passe plus rien pour les personnages, mais où tout se passe pour l'image. Hein. Donc, c'est le moment où, effectivement, le spectacle est maniériste au sens où Danet l'employait. C'est vrai du cinéma mondain, au sens de Boileau, c'est vrai du blockbuster hollywoodien. Ce dernier exemple, et je termine, montre que la thématisation pop de questions héritées de la théorie de la fiction et de la physique contemporaine, la question des mondes possibles et des multivers notamment, ces paradoxes réflexifs sur l'inclusion et la traversée métaleptique, peut et est susceptible d'engendrer une position réflexive spécifique qui articule finalement ludicité des immersions et lucidité des formes et des enjeux médiatiques et technologiques. Finalement, la recharge réflexive dans la culture pop ne dépend pas seulement des œuvres ou des formes médiatiques, elle ne peut se limiter à l'inscription d'indices, de marqueurs dévitalisés à force de stéréotypie qu'il nous faudrait restaurer dans leur efficacité formelle ou sémantique. Cette recharge réflexive dépend donc du type de lecteur ou de spectateur, de joueur que nous sommes. Et si la réflexivité était dans l'œil, comme la célèbre formule du critique Hello, un ami de Maupassant, le disait lorsqu'il disait la formule est « le fantastique n'est pas dans l'objet, il est dans l'œil ». Et si la réflexivité était une propriété spectatorielle et lectorale, particulièrement développée dans les âges méta, à l'issue de lecteurs formés à certains textes et certains films, et qu'à ce moment-là, le souci et le possible réflexif seraient une manière de laisser ouvertes des œuvres, des images et des spectacles qui dépendraient alors de la manière dont les textes sont lus et dont les images sont vues. Ce serait là la plus sûre manière d'échapper à la rétromania et à la répétition, dans la manière que nous aurions de faire dialoguer les formes du passé avec les exigences du présent. Voilà, je vous remercie.